Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'évolution des cycles lunaires fait que cette année, la fête de la Chandeleur vient s'insérer dans le cycle liturgique mobile de Pâques que nous avions entamé dimanche dernier. Et nous retrouvons donc les ornements blancs et or, signe de la lumière et de la joie. Cette fête est en quelque sorte le point d'orgue qui vient clôturer le temps des manifestations d'arrivée du Christ dans le monde. Cette fête est aussi appelée la Sainte Rencontre, parce que c'est la rencontre de deux époques, le monde ancien de la Première Alliance, qui attend avec impatience la venue du Sauveur pour le salut du peuple élu, et qui, pour cela, suit les préceptes de la loi donnée par Dieu à Moïse, et un nouveau monde, celui de la Deuxième Alliance, où le Christ vient rejoindre l'humanité pour accomplir la loi et lui donner un nouveau visage, celui de l'amour infini et inconditionnel. C'est une des grandes fêtes de l'orthodoxie et qui se présente sous quatre facettes qui s'alimentent l'une l'autre. La première, c'est la fête de la lumière, c'est la Chandeleur. À l'origine, c'était une fête païenne, et ce n'est qu'en 472 que le pape Gélas Ier récupéra cette fête le 2 février, en organisant une procession au flambeau du Forum à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Pour commémorer la venue de Marie et de son fils. Dans le cadre de cette procession, des chandelles étaient allumées, d'où le nom de Chandeleur. Cette fête des Lumières, 40 jours après Noël, clôturait les théophanies de la lumière commencée à Noël. Souvenez-vous du tropaire de la fête de Noël. « Ta naissance au Christ notre Dieu a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. » Puis après, c'était avec l'épiphanie. « C'est la lumière qui brillait dans le ciel pour conduire les mages. » Et aujourd'hui, c'est Siméon qui s'exclame « Lumière qui doit se révéler à toutes les nations et gloire de ton peuple Israël. » Et à la fin des lots, nous avons béni les cierges. Ces cierges symbolisent la vraie lumière qui illumine tout homme, qui chasse les ténèbres de la nuit. Nelson Mandela disait lors de son discours d'introduction à la présidence de la République sud-africaine, « C'est notre propre lumière » et pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous sommes nés pour rendre manifeste la puissance divine qui est en nous, cette puissance divine que nous recevons aujourd'hui encore à la communion et qui nous unit au Christ et à nos frères et sœurs. Cette lumière, c'est le Christ. Après la communion, nous proclamons aussi, nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste. Parce que comme Siméon, nous avons reçu le corps et le sang du Christ. Nous reconnaissons que la nourriture que nous venons de recevoir est pour notre salut, que cette nourriture n'est pas pour notre condamnation, mais pour notre sanctification. Ce cierge extérieur que nous tenons aujourd'hui allumé est le symbole du cierge intérieur qui doit brûler en nous. L'Esprit de Dieu. La deuxième facette, c'est la fête de la purification de la Vierge Marie, celle que nous appelons la toute pure. Alors pourquoi fêtons-nous sa purification? Était-elle quand même impure? De quoi devait-elle être purifiée? Dans la loi mosaïque, dans le Lévitique, toute femme devait 40 jours après l'accouchement de son enfant porter un agneau d'un an ou deux colombes ou tourterelles au temple pour les offrir en sacrifice et acter ainsi sa purification. Cela donne l'impression qu'elle a commis une faute, qu'elle doit expier. Aujourd'hui, cela nous paraît étrange que l'accouchement soit source d'impureté. Mais à cette époque, lorsqu'une femme avait ses règles, elle perdait du sang, et le sang étant le signe de la vie, lorsqu'on le perdait, on perdait en quelque sorte la vie ou une vie. C'était ainsi un signe de mort. Or, la mort était quelque chose d'effrayant, qu'on ne pouvait toucher de peur d'être contaminé. Et lors de l'accouchement, comme la mère perdait aussi beaucoup de sang, elle était affaiblie, et dans la loi mosaïque, 40 jours étaient considérés comme un temps de repos nécessaire pour retrouver un état dit normal. 40 jours ou années, c'est un temps d'épreuve dans beaucoup de traditions, un chemin pour aller vers une terre promise. Cette période était une preuve de sagesse. Pour montrer que tout était redevenu normal, la femme devait se présenter au temple et offrir un sacrifice. Marie était une fille juive. Elle avait mis au monde un fils et 40 jours après, elle accomplissait les préceptes de la loi juive. C'était bien pour Marie une fête où elle était réintégrée dans sa communauté et ce n'est pas à voir comme une punition. La troisième facette, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Ici aussi, il nous faut retourner à l'époque du Christ et les préceptes de la loi mosaïque. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Et tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme. Cette loi n'est pas une loi morbide et cruelle. Dieu ne veut pas de sacrifices sanglants, mais un appel à la prise de conscience que tout ce que nous avons, que nous recevons, est don de Dieu. Pour les parents, cet enfant qui leur était né venait de Dieu. Et ce sacrifice était une manière pour eux de tout remettre à Dieu. C'était un sacrifice d'action de grâce. Le premier-né, c'est à cette époque le bien le plus précieux. Avoir un fils, c'était assurer la postérité. Si l'on n'y prend pas garde, nous pouvons l'idolâtrer, ce fils, en faire notre Dieu, et de ainsi nous détourner de notre chemin. Souvenez-vous que Dieu avait demandé la même chose à Abraham, en lui demandant d'offrir en sacrifice son fils Isaac. Sacrifier, ce n'est pas renoncer avec regret à ce qu'on aime, mais c'est le rendre sacré, c'est lui donner un rôle, un usage élevé. Pour le Christ, se sacrifier, c'est venir permettre la déification de l'homme. Le Christ vient actualiser l'ancienne loi de Moïse et en faire un chemin de vie éternelle. Il s'offre pour replacer l'homme dans un plan divin, le sortir de l'absurdité de la mort inéluctable. Il nous montre que le chemin de l'homme est de se donner par amour pour devenir, nous aussi, semblables à Dieu. Le Christ, en tant que divinité, n'avait pas besoin d'être offert à son Père, puisqu'il est en lui. Mais en tant que personnes humaines, il accomplit la loi. Le Christ nous montre combien il veut être partie prenante de l'humanité, combien sa divinité et son humanité sont intimement liés. Il est l'offrande pure, l'offrande raisonnable, l'offrande non sanglante que nous offrons aujourd'hui dans chacune de nos liturgies, de nos eucharisties. Raisonnable est à comprendre comme spirituel, rempli de l'Esprit Saint. C'est le Christ qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue. Enfin, la quatrième facette, c'est celle de la sainte rencontre. La rencontre, comme je vous disais, de l'alliance ancienne, symbolisée par le vieillard Siméon et Anne, et la nouvelle alliance, symbolisée par l'enfant Jésus. La vieillesse, le vieux monde, s'efface devant la jeunesse, le monde renouvelé. Cette vieillesse n'était pas sénile, mais au contraire, remplie de sagesse et de foi. Siméon représente l'humanité accomplie, celle qui s'est mise en condition pour rencontrer le Christ. Il est là comme la révélation de ce que le Christ attend de nous. Il était juste, nous nous dit dans l'Évangile. Ça veut dire qu'il suivait les lois de Dieu, et la principale, c'est l'amour. Il était pieux ou craignant Dieu, c'est-à-dire qu'il était conscient de la grandeur, de la majesté de Dieu. Sa vie était tournée vers lui, Elle était devenue prière. Il attendait celui qui serait la consolation de son peuple, comme annoncé par le prophète Isaïe. Enfin, l'Esprit Saint était sur lui, ou en lui. C'était son guide de tous les jours. Et l'Esprit Saint le mène ce jour vers le temple pour la rencontre qu'il attendait depuis longtemps avec confiance et patience. Siméon le reçoit dans ses bras et s'efface devant celui qui apporte le salut. La nouvelle et éternelle alliance, comme nous disons dans l'Eucharistie, et qui nous unit chaque fois à celui qui est la vie éternelle. Jean-Baptiste, en voyant le Christ venir à lui, dira aussi « Il faut qu'il croisse et que je diminue, c'est-à-dire que je lui donne de plus en plus de place dans ma vie. » Nous aussi, à chaque Eucharistie, comme Siméon, nous sommes invités à venir avec crainte de Dieu, avec foi et amour, pour rencontrer cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et que le prêtre nous présente à la communion. Alors soyons aujourd'hui des vieillards Siméon qui reçoivent le Christ dans leurs bras. Restons justes, pieux, craignons Dieu et que l'Esprit de Dieu nous habite et nous irons dans la paix et la joie vers la vie éternelle. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.